Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. C'est une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir encore avec vous. Et le thème de ce soir, donc nous avons vu lundi soir la consécration. Nous avons vu le fait d'être purifié, de se mettre à part pour être rempli pleinement du Seigneur. Mardi ensuite, il était question de Joseph, qui a été cet homme que Dieu a choisi dans des circonstances absolument épouvantables. Et combien nous n'aurions pas voulu être à sa place quand il était dans la citerne, peut-être quand il était intendant d'Égypte. C'est vrai que ça va mieux, n'est-ce pas? Donc nous avons vu cela avec Jenny, et elle nous a bénis avec la parole de Dieu aussi. Donc mardi, ensuite hier soir, il était question de cette moisson que Dieu a préparée et que le Seigneur demande pour que les disciples s'y engagent pleinement. Et cette moisson, nous savons, elle est mûre, elle est prête, et le Seigneur nous demande simplement d'y entrer dans la grâce du Seigneur et d'y entrer aussi, bien entendu, dans la volonté de Dieu. Et ce soir, justement, il est question de la volonté du Seigneur, et vous connaissez bien le thème de cette semaine, pour un temps comme celui-ci, amen. Pour un temps comme celui-ci, pour choisir la volonté de Dieu. Alors, j'espère que ce soir, vous n'allez pas choisir la volonté de Dieu uniquement durant cette semaine, hein. Parce que si on met ce thème pour un temps comme celui-ci, pour choisir la volonté de Dieu, vous aurez compris que la semaine prochaine, ça va continuer dans ce choix de choisir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre et reprendre plutôt ce passage de Jean 4 qui nous a été lu hier soir. Il y a tellement à dire, c'est vrai, sur ce chapitre. D'ailleurs, Brian nous disait hier soir que ça fait en tout cas 12 fois qu'il prêche et qu'il proclame la parole de Dieu selon ce chapitre 4. Et vous verrez, il y a encore des choses à découvrir. Je vais pas trop m'attarder ce soir sur ce chapitre parce que j'ai plusieurs passages que j'aimerais voir avec lui, avec vous, pardon, et avec le Seigneur, bien entendu. Et grâce aussi à ce que Brian nous a donné comme bénédiction hier soir dans cette moisson. Et il est question aussi de moisson ce soir, vous le comprendrez. Dans Jean chapitre 4, on a cette Samaritaine, elle se trouve vers le puits. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, vous pouvez peut-être relire ce passage au début. Et puis au verset 27, il est dit « Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. » Parce qu'alors c'était interdit, hein, de parler avec une femme. Les sœurs, nous sommes vraiment dans la grâce de pouvoir vous adresser ce soir et de pouvoir aussi vous adresser à vous. Mais pour quelqu'un qui était versé dans les Écritures, comme les religieux, eh bien, il était interdit de parler avec une femme, d'avoir une conversation avec elle. Et les disciples étaient bien entendu dans cette dimension-là. Et ils sont étonnés de voir que Jésus parlait avec une femme. Vous rendez compte, ce scandale? Non, mais attendez, c'est impressionnant, hein. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» Parce qu'on connaît les réponses de Jésus. Hein. Quand on pose des questions à Jésus, il a toujours le mot de la réplique. Et en général, il répond toujours par une question. Alors, ils le connaissaient et ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé non plus « De quoi parles-tu avec elle ?» Ça, c'est un petit peu intimiste, on est d'accord, on va rester sur nos gardes. Verset 28, « La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Vous verrez, c'est très intéressant cette question-là. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le prièrent en ces termes, « Rabbi, mange !» Et ce rabbi mange tombe un petit peu au milieu de, excusez-moi, mais de n'importe quoi. Mange, rabbi. C'est comme si Jésus ne savait pas ce qu'il devait faire. Et il pose cette question, mange. Mais Jésus leur répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc, les uns les autres, rebelotes, on se repose des questions, bien sûr. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils lui disent, Rabbi, mange. Après, Jésus leur répond de cette manière qu'il a une autre nourriture à manger. Et les disciples, bien sûr, se posent cette question, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc, ils étaient vraiment intrigués, de ce qu'il se passait. Verset 34, premier terme où nous trouvons pour ce soir, la dimension de la volonté de Dieu. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et ce verset est vraiment la clé de ce passage. Il est placé quasi au milieu de ce chapitre 4, bien que, bien sûr, dans les versions originales, il n'y avait pas de numéro ni de chapitre, etc. Mais je trouve intéressant que ce verset soit placé exactement au milieu de ce chapitre, parce qu'il parle ensuite et il ouvre justement à la moisson. Et cette moisson passe par la volonté de Dieu à être complètement accomplie et faite dans nos vies. Si je ne fais pas pleinement la volonté de l'Éternel dans ma vie, je ne suis pas prêt à la moisson. J'espère que j'ai un amen à cela, parce que la parole de Dieu le dit. Regardez la suite, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Donc, le fait de vouloir, comme Jésus, faire la volonté du Père, nous conduit et nous introduit directement dans la dimension de la moisson qui est déjà mûre. Et pour cela, bien entendu, il nous faut, comme on l'a entendu hier soir, lever les yeux pour être bien au courant de ce qui se passe. Dans ce terme de volonté, comme définition, nous avons une idée d'abstraction. J'ai trouvé très intéressant, alors excusez-moi ce soir, c'est peut-être à titre un petit peu d'enseignement didactique que j'ai le plaisir de vous donner ce soir. Donc il y a une idée d'abstraction, c'est-à-dire le fait de ne retenir finalement que ce qui est essentiel. Et nous savons que ce qui est essentiel pour nous, et pour vous certainement qui jeûnez aussi, quand on commence à manquer de nourriture, il y a le vent qui commence à crier famine, d'accord ? Donc la nourriture fait partie des choses essentielles. Et ce qui est extraordinaire de voir, c'est que Jésus ne veut se nourrir que de la volonté de son Père. Parce que c'est quelque chose qui est essentiel depuis le début pour lui. Amen. Et il y a plus que la nourriture, entre guillemets, physique. Il y a cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu le Père. Et ce qui est extraordinaire de voir justement, c'est que dans la dimension biblique, dans l'idée biblique, la volonté, c'est une idée d'abstraction. C'est-à-dire que nous allons retenir que ce qui est essentiel lorsque nous faisons la volonté de notre Père. Alors maintenant, si on prend la première mention de l'évangile, ou plutôt de la parole de Dieu dans l'évangile, dans les évangiles, concernant la volonté et la volonté de Dieu, quand on prend ce terme, ce qui est absolument extraordinaire, peut-être que vous allez le deviner, vous allez le trouver où ? Dans Matthieu, la première mention du terme de volonté, vous allez le trouver où ? Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Non, 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 ça ce sera après. Alors, Matthieu 6, et nous lisons au verset 5 déjà. « Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu déjà leur récompense. » Excuse-moi, ça n'arrive pas ici à l'église de réveil de Genève. Non, je suis un petit peu sarcastique, excuse-moi. Il est dit, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Verset 6. Mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte pour prier ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est question de nouveau de relation au Père. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tiens, ça commence aussi un petit peu à me ressembler là quand même. D'accord? Parce que des fois, on prie. C'est pas interdit de prier, mais quelle foi est-ce que nous mettons à nos paroles ? Au verset 8, ne le ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia ! Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quoi qu'il en soit sur la terre, dans mes circonstances, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et sa première mention de ce terme de volonté dans les évangiles en Matthieu au chapitre 6. Extraordinaire. Qu'est-ce qui vient après ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien sûr que nous avons besoin quand même de nous nourrir physiquement, mais ce soir, il y a plus que la nourriture physique. Il y a cette nourriture de pouvoir et de vouloir, de choisir, d'avoir la volonté de faire la volonté du Père. Amen. Bien sûr, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous de malin. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. J'ai ici une version dans Matthieu qui a juste mis entre parenthèses, bien sûr, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et ça ne figure peut-être pas dans vos versions. Il y a certaines versions qu'ils ne mettent pas, mais qui le mettent en annotation dans les manuscrits. Voilà, je clôt cette petite parenthèse. Donc, bien sûr, la volonté du Père, la volonté de faire ce que le Père désire est contenue dans cette prière tout à fait essentielle du Notre Père que je vous invite à réciter, bien sûr, chaque jour, pas comme une vaine redite, parce qu'il a cette dimension de la volonté du Père. Amen. Deuxième mention, Matthieu 7, juste après. Alors, quel chapitre, Matthieu 7? J'aime mieux vous dire que là, il y a vraiment des choses où le Seigneur veut toujours nous travailler. Chapitre 7, premier verset, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez quand vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez quand vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre? Mais alors là, c'est à mourir de rire. C'est vraiment quelque chose qui doit nous choquer. Et Jésus avait quand même un certain humour, si on peut dire, dans son enseignement. Il fallait quand même la trouver, hein, cette formule. Alors il dit, hypocrite. Et je rappelle qu'un hypocrite, bibliquement, c'est déjà quelqu'un qui est déjà sous le jugement, de hypocrites en grec. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est déjà sous le jugement et qui doit se repentir. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Et il me semble que ce que tu as lu tout à l'heure revient maintenant, Nicolas, parce qu'on a justement ce fameux verset que tu viens de lire. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur te le répète une deuxième fois. Je peux vous dire que je ne me suis pas arrangé avec Nico, je ne connaissais pas ce qu'il allait nous partager ce soir. Et ça revient maintenant. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel homme parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes? Et d'autres traductions où les parallèles disent le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nicolas, tu avais de l'avance sur le gâteau ce soir dans la prédication, tu as été conduit, gloire à Dieu. Verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quelle image aussi, quel humour presque. Regardez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits si un mauvais arbre produit de ni un mauvais arbre pardon de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout de suite après cette mise en garde, Jésus nous rappelle ce verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, on rajoute les sœurs quand même, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père est essentielle à ma vie pour mon entrée dans le ciel. C'est une vérité de la palisse. Excusez-moi, on le sait. Mais replacer dans le contexte avec tout ce qu'on vient de lire, combien on peut être à côté de nos baskets, à côté de la volonté du Père, pensant faire la volonté du Père? Et ces faux prophètes Peut-être qu'il y en a qui pensent faire quand même la volonté du Père. Et c'est là qu'il nous faut vraiment nous interroger, de voir aussi quel fruit est-ce que nous portons et quel fruit est-ce que les personnes aussi veulent nous prêter. Verset 22, beaucoup de me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Et c'est pas le tout d'invoquer le nom du Seigneur, là. Pourtant, la parole de Dieu dit, « Mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé parce qu'il veut vraiment incliner son cœur à faire la volonté de son Père. Mais de dire simplement d'une manière superficielle, « Seigneur, Seigneur !» N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? Non, mais attends, hé, c'est quand même quelque chose, hein ? En ton nom que nous avons chassé des démons, attends là, c'est assez extraordinaire. En ton nom que nous avons fait même de nombreux miracles. Et je l'ai toujours dit que les miracles ne sont pas la preuve de la fidélité que nous pouvons témoigner au Seigneur. Souvenez-vous d'Israël en Égypte. Et cette délivrance extraordinaire. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais vous vous rendez compte? Ainsi quiconque entend de moi ces paroles, élément pratique, sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Comment? En faisant la volonté du Père. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Parce que tu pratiques la parole de Dieu, parce que tu fais la volonté du Père. Mais quiconque entend de moi ces paroles et n'est pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle est tombée et sa ruine, bien sûr, a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement car il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non pas comme leur scribe. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il voulait toujours faire la volonté de Dieu. Son Père. Et si tu entres dans la dimension de vouloir faire la volonté de ton Père, je te garantis que l'onction de Dieu, je te garantis que l'autorité de Dieu va être marquée sur ta vie. D'accord? Elle va être marquée sur ta vie parce que tu fais la volonté de ton Père. Parce que tu t'appliques à rechercher sa face. Parce que tu te nourris de la volonté de ton Père avant tout, avant de cette nourriture physique qui est bien entendu nécessaire, on est d'accord? Et alors là, Dieu va te marquer de cette autorité extraordinaire qui vient de lui, que l'homme ne peut pas du tout singer, même pas l'ennemi. Troisième mention de ce mot volonté, c'est dans Matthieu 12, au verset 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Quand Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Alors regardez de nouveau la réponse de Jésus qui est absolument étonnante. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et il dit, voici ma mère et voici mes frères. En effet, magnifique, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est véritablement mon frère, ma sœur et ma mère. C'est-à-dire que pour entrer dans la famille de l'Éternel, pour entrer dans la famille intime du Père Céleste, bien sûr qu'il faut que je fasse sa volonté comme Jésus l'a faite et alors je serai compté parmi les frères, parmi les sœurs de Jésus parce que je suis habité de la volonté du Père que je veux accomplir de tout mon cœur. Il y a une clé bien-aimée pour entrer dans la famille de Dieu, c'est de faire la volonté du Père, un temps comme celui-ci pour faire la volonté du Père. Ce qui est absolument extraordinaire dans ce passage, on n'a pas forcément le temps ce soir, mais il y a déjà un miracle qui est refusé. Regardez dans quel contexte ce miracle est refusé. Il y a aussi la dimension, et là c'est très très fort ce soir, je voudrais vraiment insister, il y a la dimension du blasphème contre le Saint-Esprit qui est dans ce chapitre où on parle d'être intime de Jésus et d'avoir cette grâce de relationner avec lui pour justement faire la volonté de Jésus, la volonté de notre Père. Et on connaît le contexte de cette déclaration parce que les pharisiens étaient absolument opposés au ministère de Jésus et à un moment donné ils sortent cette monstruosité en disant justement que Jésus chassait les démons par Belzébul. Alors là c'est le sommet de tout ce qu'on peut imaginer parce que Dieu ne pouvait pas plus faire que d'envoyer son fils. Et ils avaient en face d'eux le fils de Dieu et ils refusaient encore. Il leur disait même, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause de mes miracles. Ou au moins, regardez, ouvrez les yeux. Et ils étaient absolument aveuglés. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a cette dimension justement de ce blasphème du Saint-Esprit qui est rapporté automatiquement à la conclusion de ce chapitre qui parle de la volonté du Père. Waouh ! Et ça m'interpelle. Dans les choses de Dieu. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement vivante, qui est tellement merveilleuse, qui est révélatrice par ton esprit, Seigneur. Tu nous bénis dans tout ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a une relation directe entre le blasphème contre le Saint-Esprit et de faire la volonté de Dieu? Mais bien sûr. Si tu te bornes à ne pas faire la volonté de ton Père, tu vas être désobéissant, tu vas être rebelle, et il y a le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit explicitement dans ces textes que nous avons lus. Quatrième mention du terme de volonté, c'est Matthieu 18, les versets 1 à 14. J'espère pas être trop long ce soir, excusez-moi. J'ai encore combien de temps? C'est déjà terminé. Hein. On est déjà au-delà du quart d'heure. Hein. Matthieu 18, verset 1 et suivant. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors là, c'est de nouveau un schéma classique de celui qui veut se mettre en avant et de celui qui est habité vraiment d'un certain orgueil ou d'un orgueil certain. Alors Jésus appela un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Là, c'est aussi quelque chose de radical. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui qu'on suspende à son cou une meule comme on tourne les ânes et qu'on le noie au fond de la mer. Jésus était quand même dur. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il se produise des occasions de chute dans le sens qu'on ne peut pas les éviter. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Alors ça, c'est aussi radical. Est-ce qu'il faut le prendre comme quelque chose d'une hyperbole, quelque chose à interpréter? Moi, je ne sais pas. Il y en a même qui se sont rendus eunuques pour le royaume de Dieu volontairement. Donc il y a des enjeux spirituels, il y a des enjeux par rapport à nos actions. Et parfois j'aurais peut-être mieux fait d'avoir eu à une main coupée que de faire ce que j'ai fait. Parce que nos corps sont des véhicules, alors je ne dis pas que le corps est mauvais bien sûr, hein, mais c'est l'enveloppe avec laquelle malheureusement nous péchons et là où nous devons vraiment être prudents. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer bande dans la vie que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la gêne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Peut-être pour toi cette parole ce soir. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Comment savez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il se réjouit de plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Regardez, de même, ça c'est fort aussi. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et ce n'est pas la volonté du Père que nous nous perdions. Et je trouve extraordinaire ce contraste entre vouloir faire la volonté de Dieu, notre nourriture, et de voir que ce n'est pas la volonté de mon Père que quelqu'un se perde. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdue, comme cette brebis, la plus petite brebis, peut-être méprisée. Le Seigneur ne veut pas qu'elle se perde. Magnifique. Quatrième mention de ce terme de volonté. Cinquième mention, c'est dans le chapitre 21. Gentiment conclure, j'ai encore beaucoup à dire, mais gentiment conclure. Chapitre 21, au verset, à partir du verset, attendez voir, on va voir ça. À partir du verset 28, parabole des deux fils. Commencez-vous, un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Il s'adressa alors au deuxième et lui donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Puis il se repentit et il y alla. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? On retrouve ce terme de volonté. Ils répondirent le dernier. Jésus leur dit, en vérité, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. On parle de Jean-Baptiste, bien sûr, le précurseur de Christ. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. De nouveau, il y a une rébellion là et vous rendez compte, l'affront de Jésus par rapport aux religieux, de leur dire justement que les prostituées et que les péagers, les gens les plus indésirables, devançaient les religieux, les pharisiens, ceux qui connaissaient les choses de Dieu dans le royaume de Dieu. Et là, c'est une interpellation pour moi ce soir, Seigneur. Parce que le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, mon Père, peut aussi, malheureusement, m'entraîner dans des voies d'injustice, m'entraîner dans des voies qui ne sont pas glorieuses. Et lorsque je prétends faire la volonté de mon Père et que je ne la fais plus et que je persiste dans ce chemin, eh bien, je dois dire ce soir, au risque de vous choquer, les prostituées et les péagers vont me devancer dans le royaume de Dieu. C'est peut-être un temps pour se remettre en question. Je sais, c'est très radical ce soir. Je vais pas commencer à m'excuser, mais je suis tellement saisi par ces choses. Je dis, mais Seigneur, le centre de ma relation avec toi, c'est de faire ta volonté. Et ceci, bien sûr, est un traité suprême face aux accusations des religieux. Sixième et dernière mention dans Matthieu de ce terme de volonté, je pense que je vais m'arrêter là, c'est en Matthieu 26, et tu l'as dit tout à l'heure Nico, Matthieu 26, c'était juste versets 39 à 42. Nous sommes à l'heure, bien sûr, la plus épouvantable de Jésus. Tout ce que les hommes réussiront à lui offrir après tout le bien qu'il a fait, c'est une couronne d'épines et une croix. Et dans ce Matthieu 26, à partir du verset 39, on va prendre à partir du verset 36, excusez-moi, là-dessus, 36, donc Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte, Jésus, la vie, qui dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi, s'il vous plaît. Je rajoute ça. Puis il s'avança un peu, se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux. Il est question de volonté, là. Non pas comme je veux, mais comme toi, tu veux, Seigneur. La tentation de l'ennemi face à ses angoisses, face à la mort. Il voulait le séduire là. Et Jésus affirme que dans ces circonstances les plus épouvantables, je veux faire ta volonté, Père. Et il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis. On connaît l'histoire. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller seulement une heure avec moi, veiller, prier, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre comme au ciel. Et ce que je trouve absolument extraordinaire, cette dernière mention de la volonté de Jésus dans ce tourment qu'il avait dans son cœur, reprend l'enseignement de Jésus En Matthieu 6, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on arrive à la fin de cet événement où Jésus va être crucifié. Et là, il reprend ce qu'il a enseigné à ses disciples. Que ta volonté soit faite dans l'heure la plus extrême de sa vie. Et c'est absolument extraordinaire de voir la constance de Jésus et de voir que la volonté placée au centre de la vie de Jésus, placée au centre de notre vie, va vraiment accomplir la volonté du Père. Verset 43, il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Retournons juste, encore brièvement, dans l'Évangile selon Jean, prologue, chapitre 1, verset 1, pour conclure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un homme envoyé par Dieu du nom de Jean-Baptiste, et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, on parle de Jean-Baptiste, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus, bien sûr. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et ce soir, c'est un verset libérateur pour toi, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui sont nés en son nom, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais je rajoute de la volonté de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la grâce d'avoir été élus grâce à la volonté de Dieu. Comment ne pas faire en retour sa volonté? Un temps comme celui-ci pour faire la volonté de Dieu notre Père comme l'essentiel de nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Ensuite, je passerai la parole à Nicolas pour la suite.